France Culture.
À Voix Nue, épisode 2, une adolescente française en Israël. Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Une adolescente française en Israël, parce que nous allons parler, pour ce deuxième épisode des Avoinus, de ces 8 années que vous avez passées en Israël, entre 13 ans et demi et 21 ans. On aurait pu d'ailleurs intituler le premier épisode Nice et Constantine, Nice où vous viviez, Constantine où votre famille était originaire, et celui-ci Jérusalem. Je commence juste à le dire ça parce qu'on va démarrer une cartographie de votre vie qui va de lieu en lieu. Mais cette expérience en Israël, vous l'avez rapportée, alors c'est pas consigné, c'est rapporté sous la forme littéraire, dans plusieurs de vos livres. Je pense à En retard pour la guerre, je pense à Quand j'étais soldate. Et pour ouvrir cet épisode, je voudrais vous proposer de lire le début de Quand j'étais soldate.
Je suis née à Nice, en France, et c'est très exceptionnel. Remarquable même. C'est ce qui fait pour tous la différence, et pour certains mon intérêt, voire mon charme. Il suffit que j'ouvre la bouche pour qu'on s'agglutine autour de moi. Ça facilite le contact, mais c'est souvent exaspérant, surtout lorsqu'il faut à tout prix dire quelque chose en français. Baudelaire, émouvant, fait chier, tristesse infinie, gouffre sans fond, camembert, éphémère, crotte de bique, n'importe quoi. Ce qui compte pour eux, c'est le son. Surtout les mots qui comportent des « e »,« u », »,« en », »,« un », »,« on », »,« bœuf », »,« pu », »,« quand », »,« savon ». Tous ces sons qui n'existent pas dans leur langue et qu'ils trouvent si charmants, si exotique. C'est avec eux que j'ai appris qu'une langue était d'abord une musique, un assemblage de sons. Je leur dis donc n'importe quoi, parce que je ne sais que dire à des gens qui ne me comprennent pas, et eux sont ravis. Ça me désole, parce que j'aime vraiment les mots. Ils me fascinent, je les respecte, je cherche à percer leurs mystères, à les utiliser à bon escient dans les deux langues. La maternelle, le français, et l'étrangère, l'hébreu. Mais les autres s'en fichent et me supplient inlassablement. S'il te plaît, dis-nous quelque chose en français. Nous habitons à Beersheva, une ville de 100 000 habitants, plantée dans le désert du Négev, en Israël.
Quand vous arrivez en Israël, donc à Beersheva, dans le désert, vous avez 13 ans et demi, on ne vous comprend pas et vous ne comprenez pas non plus, même si vous avez appris l'hébreu en école maternelle, mais depuis, il s'était passé pas mal de temps en français. Déjà, peut-être pour qu'on comprenne, comment se fait-il qu'avec votre famille, vous partiez ce 24 août 1983 ? Pourquoi vos parents ont-ils décidé d'aller en Israël à ce moment-là ?
Alors, mes parents ont été, je crois, secoués comme beaucoup de gens par les attentats du début des années 80, donc l'attentat de la rue des Rosiers et la synagogue Copernic.
À Paris.
À Paris. C'est le moment où, pour la première fois, et depuis je crois que ça n'a jamais cessé, il y a eu tout à coup des policiers en faction devant des synagogues. Et d'ailleurs, je me souviens que cette vision-là provoquait chez moi une terreur, au contraire. C'est-à-dire, je ne me sentais pas du tout protégée. Je me disais, s'il faut des policiers pour nous protéger, alors ça signifie que nous sommes réellement en danger. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, l'Agence juive, qui est l'organisme en Israël, qui encourage l'immigration, a agi, comme ils le font, je crois, à peu près à chaque moment où il y a des attentats, avec des campagnes pour convaincre les gens de faire ce qu'on appelle leur alia, donc leur montée en Israël. Et mes parents, dans un mélange de désir peut-être de changer de vie, dans un désir inconscient aussi, sans doute, de s'éloigner peut-être un peu de leur famille très aimante, mais un peu étouffante, on va dire, dans un désir presque de participer à une aventure, parce que à l'époque, Israël était un jeune État qui avait 35 ans. Je pense que quelque chose de la construction de cet État leur paraissait encore une aventure liée à une utopie, au kibbutz notamment, à une utopie socialiste. Et donc, sans doute pour toutes ces raisons, ils ont fait le choix de partir. Et dans un premier temps, moi, j'ai pris plutôt cette décision avec beaucoup d'enthousiasme parce que, justement, je me disais, bah, je serais certainement plus étrangère là-bas. Et puis, c'était le début de mon adolescence. J'étais, comme tout le monde, fascinée par Sophie Marceau dans La Boum. Je rêvais de lui ressembler. Et donc, je me disais, j'espérais qu'en changeant de pays, j'allais miraculeusement me transformer en Sophie Marceau dans La Boum.
Et c'est pas advenu?
Non, pas du tout. Ce qui est advenu, c'est un énorme choc esthétique, linguistique, culinaire, tout. Voilà, on a quitté Nice, qui est une ville quand même cossue et... étincelante, puis il y avait la mer, comme je disais dans le premier épisode, et là tout à coup le désert, le sable, une architecture qui sans queue ni tête, qui ne racontait rien. On a débarqué là-bas, on a été logé dans voilà des sortes de HLM qui venaient d'être construits, et puis vraiment surtout et avant tout, en dehors des paysages, il y avait tout à coup la langue qui... Parce que l'hébreu, certes, je l'avais appris, mais uniquement un usage liturgique. Donc je savais prier en hébreu, mais je ne comprenais pas un mot à part Dieu en hébreu.
Pour la vie de tous les jours, ça...
Pour la vie de tous les jours, ce n'est pas très pratique. Et donc je suis arrivée là-bas et j'ai vraiment eu le sentiment d'être anéantie. De n'avoir aucune preuve de mon existence. J'étais dans un isolement terrible parce que ma sœur, qui était plus grande que moi, plus âgée que moi, a suivi des cours pour apprendre l'hébreu. Mais moi, j'avais 13 ans et demi et donc on estimait qu'on pouvait me balancer dans une classe, en classe de quatrième donc, et que j'allais apprendre toute seule. C'est ce qui s'est produit. Mais la première année a été... une plongée dans ce que pouvait être le monde quand il n'y avait plus les mots. Et je crois que je ne m'en suis pas tout à fait remise jusqu'à ce jour, mais que j'ai transformé ça en quelque chose d'extrêmement bénéfique. Parce que avoir vécu à 13 ans et demi un mutisme et une incapacité à comprendre, alors que j'avais déjà l'âge de raison, c'est quelque chose qui a là aussi déchaîné en moi d'abord le rapport au français, parce que ça a renforcé mon rapport au français.
Vous vous êtes rendu compte peut-être que vous étiez française, alors que jusqu'à présent vous ne posiez pas la question.
Exactement, par exemple. Exactement. C'est-à-dire là où en France il y avait toujours ce décalage de l'Algérie, la judaïté, et tout ce mélange. Tout à coup en Israël, j'étais d'abord et avant tout la française. Même si, j'en parle un peu dans Mensonge, il y avait quelque chose qui est un des péchés originels, peut-être, d'Israël, politique, c'est que j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il y avait là des Juifs qui venaient du monde entier. Donc, il y avait vraiment un melting pot très intéressant, par ailleurs. Mais il y avait aussi une vraie distinction entre les Juifs d'Europe, les Juifs originaires d'Europe, ceux qu'on appelle les Ashkenazes couramment, et les Juifs orientaux. Et
qu'on
appelle les Séfarades, ce qui n'est pas toujours juste historiquement, mais bon, c'est comme ça. Et cette hiérarchie entre des Juifs éclairés parce qu'ils venaient d'Europe, et donc parce qu'ils avaient une culture européenne, et des Juifs orientaux qui étaient assimilés à quelque chose d'archaïque, arriéré, et parfois même méprisable, cette conscience-là a été aussi m'a plongée dans le désarroi. Et j'étais toujours très en colère quand on me demandait d'où je venais, que je disais de France, et on me regardait d'un œil soupçonneux parce que je suis brune, j'ai les yeux noirs, les cheveux noirs, et on me disait non, mais t'es pas vraiment de France, mais avant, tes parents ils sont d'où? Et en fait, je me suis braquée et je me suis inventée une généalogie. J'ai été un peu mythomane. Je me suis inventée une généalogie qui passait par l'Allemagne et l'Italie. Comme j'étais déjà passionnée par l'histoire, j'ai inventé vraiment une généalogie sur 1000 ans pour raconter que je venais d'Europe. Parce que je le sentais profondément là-bas. À la fois sur le plan vestimentaire, sur la musique, un rapport à la façon de manger, de s'exprimer, de se tenir... à la politesse, évidemment, très française, et qui n'existait pas du tout là-bas. Moi, les chanteurs que j'aimais étaient français, et puis c'était ma langue. Et donc, j'ai cultivé mon rapport à la France. Et puis, petit à petit, il y a eu une sorte de corps à corps avec ce pays et cette langue qui a été très, très puissant parce que, justement, je l'ai vécu très physiquement. L'hébreu est entré en moi physiquement. Et puis, c'était l'adolescence. Donc, ça a été un bouleversement à tous les étages.
L'hébreu est rentré en vous, de même que l'actualité est entrée en vous. Vous l'avez éprouvé immédiatement, puisque vous étiez là-bas quand la première intifada a été déclenchée en 1987. Comme vous aviez dit dans l'épisode 1 que vous étiez très intéressé, passionné même par les matières historiques, mais aussi par tout ce qui touchait à l'actualité, et qu'en l'occurrence vous aviez un professeur d'histoire qui était le même, je crois, de la troisième à la terminale,
oui.
Du point de vue de l'histoire, vous étiez bien pris en main. Là, vous êtes entré de plein pied dans l'actualité politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez éprouvé avec entièreté ?
Oui, je pense, parce que juste en 1987, bon, j'ai d'abord été accaparée par mon intégration, et donc notamment linguistique et puis amicale. C'est un moment où l'adolescence où les autres, les amis, les amoureux, ça compte énormément. Donc j'étais dans un environnement essentiellement russophone. Puisque les
beaucoup d'immigrants venant
beaucoup.
Du RSS.
Oui, moi j'étais justement fascinée par ces jeunes gens qui avaient mon âge et qui avaient grandi donc de l'autre côté du rideau de fer, qui était une sorte d'image très très forte de mon enfance. Et soudain j'avais accès à cet autre côté par des amis qui venaient de Moscou, de Kichinev, de Kiev, d'Odessa, de Tachkent, de Samarcande. Et le russe, mais la langue russe m'est devenue extrêmement familière. Les plats, les chanteurs, j'ai découvert Vladimir Vysotsky, Alla Pugacheva, qui est une star. Et il y a quelque chose en moi, comme ça, qui a d'abord, avant de comprendre le pays dans lequel je vivais, qui était extrêmement lié à ses amis qui venaient de l'Empire soviétique qui existait encore et qui me disaient « on a quitté un endroit où on ne pourra jamais retourner ». Comme ce que mes parents me disaient sur l'Algérie, on ne verra jamais notre famille. Le jamais existait encore. Et puis quelques années après, il a volé en éclats.
Enfin, une couche supplémentaire. C'était
ajouté
dans la superposition. Hein.
Tout à fait.
Je note qu'encore un monde.
Encore un monde. Ouais. Encore un monde.
S'ouvrait à vous.
Voilà. Et puis.
La première intifada.
Voilà, le récit du lieu, parce que tout est une question de récit, le récit donc du lieu où j'étais, qui était donc Israël, était, par l'école, par les gens autour de nous, était quand même pris vraiment dans les grands mythes fondateurs du sionisme. Donc, un État où les Juifs étaient revenus après 2000 ans d'exil. J'étais imprégnée d'un récit qui était celui de la fondation d'Israël. Et puis, en 1987, a donc éclaté la première intifada. La première intifada, donc le soulèvement de l'intérieur des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Alors, je situais Gaza, où d'ailleurs, la seule fois où j'étais allée en Israël, enfant, à 6 ans, on était allé à Gaza. On avait bu une citronnade, mangé une brique à l'œuf. J'ai un souvenir très précis d'une place à Gaza où je me suis trouvée et tenue. Mais je n'avais pas conscience du tout que les Palestiniens vivant là-bas avaient un statut différent des Palestiniens vivant en Israël, et qu'on appelait alors les Arabes israéliens. Et là, quand l'intifada a commencé, évidemment, ça a tout envahi dans les journaux. Et mes amis et moi, on avait 17 ans, on s'apprêtait à partir à l'armée, on s'apprêtait à voter aussi. On était effectivement extrêmement stimulés par ce professeur Guy Dichav, professeur d'histoire et d'instruction civique, qui nous ouvrait des mondes, qui nous a appris à penser, à avoir l'esprit critique, qui chaque semaine organisait une heure de débat en classe. Il y avait une heure de discussion. C'était pas un cours, c'était une heure de discussion. Il nous donnait une thématique et on devait s'exprimer, on devait s'écouter, on devait débattre. Et évidemment, cette année-là, l'intifada, la condition des Palestiniens, la définition de ce que pouvait être ce peuple, la définition de ce que l'État d'Israël pouvait aussi être et qui déviait par rapport au discours qu'on nous avait servi jusque-là, tout ça était pour moi très très fort parce que je, en France, je m'intéressais déjà à la politique et à l'histoire, et que là, en Israël, ça a été le moment où, bon, j'avais déjà 17 ans et où le lien entre l'histoire et la morale, le lien entre les choix individuels, pour qui voter, que choisir, dans quel sens continuer à bâtir une histoire, parce que je sentais bien qu'Israël était un État jeune qui avait encore quelque chose, des choses à définir. Toutes ces questions-là nous ont agités, et d'ailleurs on était vraiment tous extrêmement politisés. Voilà, on avait des conversations le soir en boîte, quand on rentrait, quand on traînait dans le quartier, parce qu'il n'y avait pas toujours grand-chose à faire. On avait voilà, un gros appareil sur lequel on écoutait de la musique, et puis régulièrement on avait cette question entre nous, faut-il la création d'un État palestinien ou pas ? Et ça a été un moment qui a énormément compté pour moi.
De la même façon, Valérie Zenati a compté, et pour cause, parce que ça a été 2 ans de votre vie, le service militaire que vous avez dû effectuer là-bas. C'est 2 ans hein, en Israël. À l'époque, en 1988, vous avez eu 18 ans, votre bac, et vous êtes parti faire votre service militaire, année majeure. Donc je suppose que ça a beaucoup compté, d'autant que vous en avez fait un ouvrage, « Quand j'étais soldate », qui est apparu en 2002, qui est l'expérience de ces 2 années de service militaire. En quoi ça a été pour vous fondateur ? Si ça l'a été, d'ailleurs.
Alors, fondateur, je ne sais pas, mais je pense que, dans un premier temps, donc, le service militaire était obligatoire, il est toujours pour les filles et pour les garçons. Il y avait cet élément, quand même, d'égalité entre les garçons et les filles, qui me semblait intéressant, même si voilà, c'était pour faire quelque chose qui... pour lequel je n'étais pas prête comme l'étaient les autres enfants là-bas qui, dès le plus jeune âge, je savais qu'ils allaient partir un jour à l'armée. Moi, j'avais passé la majeure partie de ma vie sans savoir qu'un jour, j'allais faire mon service militaire. Et c'est arrivé, dans un premier temps, je dirais, comme la possibilité, sans doute, de m'intégrer à ce pays. Et là, j'en parle vraiment, je cherche pas à porter un regard rétrospectif. Je dis que je sentais bien que le service militaire était certainement ce creuset où tous les jeunes gens pouvaient à un moment donné passer par le même endroit pour faire d'eux des citoyens de cet État. Ensuite, l'expérience, lorsqu'elle a commencé, a été là aussi, de nouveau, la source d'un décalage très profond, parce que je me souviens très très bien pour le coup de la sensation que j'ai eue en enfilant mon uniforme pour la première fois. J'ai eu l'impression d'être déguisée. J'étais persuadée que dans la rue, tout le monde allait me regarder, comme si tout à coup je me baladais en Superman ou en fermière du XVIIe siècle ou je sais pas, ou en toge. C'était totalement incongru pour moi. La deuxième chose qui n'apparaît pas dans « Quand j'étais soldate », parce que je crois que « Quand j'étais soldate », j'ai toujours dit que c'était un roman, c'est un roman autobiographique, mais le mot « roman » précède l'autobiographie. Je pense que l'écriture de « Quand j'étais soldate » a été un peu réparatrice et que j'ai voulu raconter surtout quelque chose du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et pour moi, c'est vrai que ça s'est beaucoup joué dans ces années-là. Dans les faits, j'ai ressenti une grande solitude à l'armée. J'étais de nouveau rebelle par rapport à des règles qui me semblaient stupides, à un ordre établi. J'avais du mal à être enfermée. Les premières fois quand j'ai fait mes classes où je me suis retrouvée dans un camp militaire et des barbelés, je pensais au camp de la guerre. D'ailleurs, j'ai fait un malaise à l'armée qui reste un peu inexpliqué, mais qui était très très violent. Et on m'a emmenée aux urgences. Qui est dans le livre. Mais que je n'ai pas, dont je n'ai pas parlé. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais en parler aujourd'hui. Le fait est que il y avait à la fois, puisque bon, j'ai servi dans le renseignement, donc il y avait un intérêt intellectuel très fort, et ça, c'était vraiment stimulant et ça m'a aussi permis de découvrir qu'on pouvait toujours repousser les limites de l'esprit. Là, pour le coup, on nous donnait une carte avec 100 points sur cette carte et il fallait la connaître par cœur pour le lendemain. et à prendre une carte avec 100 points à localiser, ça paraît impossible quand on vous la donne à 20h et que vous devez la connaître le lendemain. Et pourtant, c'est possible. Et donc, voilà, l'esprit était soumis quand même à un apprentissage qui était intéressant, mais le fait de ne plus être maîtresse de mon temps. Et en cela, peut-être, il y a quelque chose de fondateur dans ce service militaire. Le fait de ne pas pouvoir lire quand je voulais lire, de ne pas pouvoir écouter de la musique quand je voulais en écouter. Et vraiment, je le dis, dans quand j'étais soldate, je crois, mon kit de survie à l'armée, ça a été mon Walkman, un carnet où je pouvais écrire et un livre. Et ça, c'était mon kit de survie. Et ça allait jusqu'à ce jour, en fait. Et donc, ça m'a donné aussi une conscience du temps très très grande, et je sais que je suis sortie de l'armée mais comme un élastique tendu au maximum et qui était prêt à rompre s'il n'était pas enfin lâché vers la vie pour foncer et s'emparer de tout avec la liberté dont j'avais manqué pendant 2 ans.
Et comme vous faites jamais les choses simplement, on commence à le comprendre, Valérie Zenati, vous faites une double licence après l'armée à Jérusalem, une licence d'histoire juive et puis des sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je voudrais qu'on termine cette expérience qui a été la vôtre justement par le livre qui est apparu en 2006, qui s'intitule « En retard pour la guerre », parce que vous y racontez le quotidien d'une jeune Française, Constance, en janvier 91, alors que Saddam Hussein menace de déclencher une guerre chimique et bactériologique. Là aussi, roman autobiographique, je suppose. Vous avez vraiment vécu des attaques de missiles irakiens sur le sol israélien ?
Oui, tout à fait. Je venais d'être justement libérée de mon service militaire et j'ai commencé ma première année de fac. Et donc, il y a eu d'abord l'invasion du Koweït, on nous a distribué des masques à gaz, puisqu'à l'époque, la menace, c'était le gaz. Et puis il y a eu ce moment où l'ultimatum a été lancé à Saddam Hussein. Il devait quitter le Koweït avant le 15 janvier 1991. Et voilà, autrement, la coalition dans laquelle il y avait aussi bien les États-Unis que la France, la Syrie, l'Arabie Saoudite, c'était une coalition presque improbable, donc voilà, menacé de l'attaquer, et lui, en retour, menacé d'attaquer Israël. Alors, il y avait déjà l'intifada, donc, qui se poursuivait.
1987-1993, hein.
Voilà, tout à fait.
La première intifada.
Donc, il y avait déjà l'intifada. Il y avait déjà toutes les questions politiques qui se posaient en Israël, et puis moi, voilà, j'ai... Pendant le service militaire, j'ai aussi, je suis passée pour la première fois par la Cisjordanie, par Hébron, en bus... Et j'ai vu, je voulais voir où vivaient les Palestiniens. Et je crois que tout allait très vite. Mais j'avais entre mes mains des données qui faisaient que je sentais que les bonnes décisions politiques n'étaient pas forcément prises. J'avais une autre expérience aussi de la démocratie. J'avais une autre expérience de la séparation entre l'Église et l'État. Le fait que les religieux ne faisaient pas leur service militaire, mais étaient pourtant présents dans la vie politique, représentés au Parlement, faisaient pression pour faire voter des lois, tout ça me mettait vraiment hors de moi. Et j'ai fondé, à l'Université hébraïque de Jérusalem, un mouvement qui s'appelait « Pour une société plus juste ». Alors, à l'époque, je crois que dans la lancée de 1981, ou au moment de l'élection de Mitterrand, je me disais... présidente de la République, pourquoi pas, et où l'engagement politique m'intéressait. Dans le prolongement de ça, je crois que je voulais agir politiquement. Et donc j'ai créé ce mouvement qui était très clair, qui était pour la séparation de l'Église et de l'État, enfin de la synagogue et de l'État en l'occurrence, l'égalité pour tous, plein de mesures économiques. J'enrageais aussi de voir que la gauche israélienne représentait plus les classes aisées et l'intelligentsia que le peuple, un peu abandonné à lui-même, le peuple qui était souvent d'origine orientale, séfarade. Tout ça, je le voyais et je le sentais. Et donc, l'année 90-91 a été marquée par ce désir d'engagement politique, d'égalité pour les Palestiniens, d'État palestinien. J'allais aux manifestations des femmes en noir à Jérusalem. Et puis, soudain, la guerre du Golfe, qui a été la première guerre, puisque l'intifada, c'était... plutôt de l'ordre du soulèvement et de la guérilla. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu des sirènes d'alerte. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu des bombardements, que j'ai été prise dans ces bombardements. Et là, voilà, cette sidération de la première alerte, je ne l'ai pas oubliée parce que c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je peux mourir dans cette salle de bain, calfeutrée, avec une serpillière, du scotch autour de la porte, un masque à gaz qui ne protège pas vraiment, apparemment. Et en même temps, il y a eu aussi un désir de vie très très grand qui s'est manifesté à ce moment-là. J'ai eu une amie très importante pour moi, qui est toujours une de mes amies les plus chères, Virginie, qui vit maintenant aux États-Unis. Et avec Virginie, je me souviens, on faisait des fêtes de fin du monde. Et puis c'est la première fois dans ma vie où j'ai transgressé la loi juive qui dit de ne pas mélanger la viande et le lait. Ça peut paraître anecdotique, mais manger une escalope de veau avec de la crème à Jérusalem à la veille de bombardement, ça a eu un goût à la fois de transgression et de... Parce que je dis souvent, en fait, la nourriture compte quand même beaucoup dans mon histoire, par différents moyens. Ça a été aussi peut-être un moyen de me dire, mais la guerre est là, je peux sans doute me libérer de contraintes que je n'ai pas choisies. Et voilà. Et cette guerre m'a fait vraiment toucher du doigt ce que pouvait être l'impuissance. Et je crois que ça se sent dans un retard pour la guerre, mais aussi toujours le mouvement qui fait que la conscience de l'impuissance me donnait encore plus envie d'être actrice dans ma propre vie.
Et la conscience de l'autre qui existait, les Palestiniens en l'occurrence, vous ont inspiré un troisième texte qui a été, je crois, à ce jour votre best-seller, hein, Valérie Zenati, Une bouteille dans la mer de Gaza, que vous avez publié en 2005, dont nous reparlerons dans le dernier épisode de ces Avoies Nues. Mais de même que vous pouvez dater la fin de votre enfance au jour de votre départ en Israël, vous pouvez dater la fin de votre adolescence à votre retour en France le 6 juin 1991. On s'arrête donc là pour l'épisode 2. Oui. Et on ouvrira le troisième épisode sur vos années parisiennes de retour en France, avec cette cartographie donc, qui vous suit. Cette fois-ci, ce sera à Paris. Avec cet épisode 3, la veste Rabin Arafat. C'est le mystère pour la suite. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À demain. C'était À Voix Nue avec Valérie Zenati, prise de son Lucien Lefebvre, réalisation François Test, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.